Cette semaine, Annette Wieworka rencontre Talila. Ce soir, Krasnik sur scène.
Il peut paraître incongru de consacrer un à voix nue à Talila, car une chanteuse est toujours dans le nu de la voix. Talila et moi, nous nous connaissons depuis de très nombreuses années et nous sommes liés d'amitié. Mais jamais je n'avais pris le temps de m'entretenir avec elle, d'évoquer Krasnik sur scène, où ses parents avaient transporté leur monde avant qu'il ne soit englouti, de l'interroger sur sa jeunesse, dans un mouvement sioniste socialiste, puis dans le Nanterre des années Cohn-Bendit, de l'interroger sur ses débuts de chanteuse et sur sa carrière, et surtout sur ce choix primordial, chanter en yiddish. Il fut long et rempli d'obstacles, le chemin qui devait conduire en 1936 un jeune homme et une jeune fille juive de Pologne jusqu'à la patrie de Victor Hugo et d'Émile Zola. C'est ce que vous écrivez, Talila. Il en aura fallu des hasards et ce qu'on peut appeler de la chance pour que leurs deux enfants, l'un né avant-guerre, l'autre après, voient le jour à Paris. Talila, l'enfant né après-guerre, c'est vous.
Oui, enfin juste après la guerre, tout près de la guerre, c'est moi. Je suis née rue Saint-Maur, dans le 11e arrondissement. Mes parents étaient arrivés en 1936 à Paris, venant de Krasnik.
Qu'est-ce que c'est que Krasnik?
Ah, c'est une capitale. C'est une petite ville, enfin une petite ville, assez grande ville, non loin de Lublin, qui était quand même un peu la capitale, et où ils avaient dû se rendre une ou deux fois dans leur vie. Dans leur vie jusqu'à 20 ans, et mon père un peu plus, puisqu'ils sont arrivés très jeunes, l'un et l'autre séparément.
Ils se sont rencontrés où?
Alors, ils se sont rencontrés, bien sûr, à Krasnik. Certaines photos le prouvent. Mais il y a des légendes, comme vous savez, autour des histoires d'amour et des histoires tout court. Ma mère n'était pas très, très intéressée par mon père, paraît-il, contrairement à mon père qui était très intéressé par ma mère. C'est ce qui se disait. Et quand ma mère a décidé de partir en France et de rejoindre sa sœur aînée qui était déjà installée à Paris, mon père a décidé de la suivre. Alors le voyage s'est passé un peu différemment pour eux puisqu'elle a été arrêtée et a passé quelques mois dans une prison allemande alors que mon père était déjà arrivé à Paris.
Ou en Allemagne ?
Eh bien ça c'est une bonne question. Je n'en sais rien. Et je vais répondre, je n'en sais rien, je crois, à beaucoup de questions sur la jeunesse de mes parents.
Et sur vous ne les avez pas questionnés, ils ne vous ont pas raconté.
Voilà, exactement. Comme je l'ai un peu écrit, on n'osait pas demander et ils n'osaient pas dire. Et c'est maintenant seulement qu'on regrette, mais on regrette beaucoup de ne pas les avoir interrogés plus précisément.
Mais malgré tout, ils racontaient quand même des petites histoires, celles qui étaient, je pense, les plus heureuses. Et notamment la façon dont elle a été libérée de prison. Elle a été emprisonnée, je crois.
Oui, oui. Alors, elle a fait un séjour en prison jusqu'à ce que des papiers officiels remplis par mon oncle et ma tante qui étaient à Paris arrivent dans cette prison. Je ne sais pas comment. Enfin, il y a des miracles. Et il y a une autre légende qui dit...
Qui est plus jolie, d'ailleurs.
Très jolie légende, qui dit que ma mère, qui était donc une très belle jeune fille brune, avec des cheveux très épais, un des gardiens de prison, dont je dis aussi qu'il était quand même assez cultivé, disait qu'elle ressemblait à la reine Esther. C'est une jolie histoire. Donc, le séjour en prison n'a pas été trop, trop rude, je pense, pour elle.
Donc, il débarque à Paris. Vous venez de nous dire que le choix de Paris était lié au fait qu'il y avait déjà de la famille qui avait émigré à Paris. Et il s'installe dans ce coin du 11e arrondissement qui est un peu particulier aussi.
Oui, ma mère s'installe chez sa sœur, donc, qui habite rue Alexandre Dumas. Et elle voit débarquer mon père, Yitzhak. Et ça aussi, c'est une autre légende. Elle pousse ma mère à épouser donc mon père. Donc il se marie très vite. Mon frère naît en 38. Et il s'installe effectivement dans le 11e arrondissement, dans cette rue Saint-Maur, où aussitôt une machine à coudre est achetée. Et où mon père et ma mère, qui l'aident évidemment, commencent à travailler. Sans papier, évidemment.
Alors, on ne peut pas, quand il est question d'une famille de juifs immigrés, surtout immigrés aussi tardivement, dans la deuxième moitié des années 30, ne pas se poser la question de comment ils ont passé la guerre et comment votre frère, né en 38, a survécu.
Bien sûr, les débuts sont un peu plus faciles, mais ils vont chez ma tante. Ma tante, dont le mari est combattant et sera prisonnier d'ailleurs. Et ensuite, ils se cachent d'appartement en appartement. Et là aussi, il y a un grand vide quant aux réponses, puisqu'on pose peu de questions. Ce que je sais, c'est que mon frère va être caché en province ou dans la proche banlieue. Ça non plus, je ne le sais pas. J'imagine que c'est en province, parce que ma mère prend le train pour aller le voir, et il est caché chez les bonnes sœurs. Et ça aussi, je le sais, parce que mon frère le raconte un peu, puisqu'elles ont de grandes robes, et
Il était tout petit, bien sûr.
Et il se cache dans les grandes robes des bonnes sœurs. Ensuite, mon père part un peu plus loin. Il travaille comme il peut. Il habille quelques personnes, je pense, et gagne quelques sous. Ma mère doit rester sans doute avec sa sœur. Ensuite, il se retrouve dans un hôtel, dans le 17e arrondissement. Enfin, c'est le long chemin de cache en cache. Voilà ce qui leur arrive. Et ils sont sauvés, évidemment, par des personnes qui les cachent. Il y a aussi une autre légende, une autre histoire, une très vieille dame dans le quartier des Épinettes qui les cache dans son appartement, mais qui, au bout d'un moment, leur demande de partir car son fils fait partie de la milice et va agir.
Alors, la guerre finie, la famille se retrouve. Votre père, votre mère et votre frère Jacques.
Oui, ils récupèrent l'appartement qui avait été occupé donc, par d'autres personnes qui avaient pris place dans leur appartement. Je crois que la machine à coudre avait disparu, mais bon, ils ont retrouvé la machine à coudre et ils se sont réinstallés rue Saint-Maur. Et c'est là que je nais.
Alors, vous ne vous appelez pas Talila ?
Pas du tout.
À la naissance.
Je m'appelle Eliane. Eliane, en premier prénom, et en deuxième prénom, Françoise.
Alors, pourquoi le Françoise ? Pourquoi le Eliane et pourquoi le Françoise ?
Alors, je ne sais pas pourquoi le Eliane, il y a Elie dedans, je pense. Et c'est proche. Je pense que les Juifs ashkénazes, comme mes parents, choisissent les prénoms français selon certaines sonorités qui leur rappellent le prénom hébraïque qu'ils donnent à leurs enfants.
Eliane, on peut l'imaginer. Françoise, c'est difficile de trouver un équivalent
Françoise
hébraïque.
Françoise, c'était à la mode. Et puis, il y a la France dans Françoise.
Et ils sont toujours étrangers et ils parlent un français avec accent, je suppose.
Alors, mon père a un très fort accent qu'il gardera jusqu'au bout, même longtemps après la guerre. Ma mère était un peu plus cultivée, en tout cas, c'est ce qu'elle disait. Elle disait bien en français. Mon père avait beaucoup de mal à lire en français, bien qu'il achetât chaque soir François. Il lisait François, péniblement, mais il le lisait quand même. Donc, fort accent, et je suppose évidemment que pendant toute la période de la guerre, ils n'ont pas vraiment de loisir d'apprendre le français. Mais ils se débrouillent, et je crois que j'admire beaucoup cela. Enfin, cette facilité, cette habileté, enfin, ce côté malin à savoir s'adapter aux situations. Et ils s'en sortent, oui, ils s'en sortent, ils trouvent du travail. On vit dans ce petit appartement de la rue Saint-Maur.
Vous avez des souvenirs de
non,
la rue Saint-Maur,
non, mes souvenirs sont liés aux quelques photos que j'ai pu voir. Moi, toute petite, et mon frère jouant du violon à côté de moi. Une machine à coudre, enfin, quelque chose d'assez sombre. Et ils décident de quitter le 11e arrondissement. Donc, j'ai à peu près un an. Et ils s'installent dans le 17e.
Et là, vous avez vécu toute votre enfance et votre adolescence.
Oui, oui, mon adolescence. Et même plus tard, vous leur rendez beaucoup visite.
Et vos parents n'ont jamais quitté la rue Truffaut.
La rue Truffaut, donc c'est proche de la rue des Batignolles. Eh bien, c'est le 17e populaire. Le 17e avec des tas de petits magasins, l'épicerie, la crèmerie, la boucherie. Et dans la rue Truffaut, dans la partie où mes parents habitent, c'est-à-dire le 29, donc il y a le tailleur, mon père, et il y a l'école.
Alors le tailleur, pour bien comprendre, il y a son atelier, mais il a aussi une boutique, si j'ai bien compris.
Oui, alors...
Dans la boutique du tailleur.
Dans la boutique du tailleur, oui. C'est une boutique qui me paraît immense et qui est minuscule, évidemment, où il travaille. C'est là qu'il coud, c'est là qu'il prend les mesures des clients. Il y a une arrière-boutique avec un rideau très moche et une glace à trois panneaux. Et c'est là que les clients essayent leur... Alors, les clients hommes et les clients... Parce que mon père est un spécialiste, donc, de la... C'est un tailleur sur mesure. Attention, ça n'est pas...
Pas de la confection.
Ça n'est pas... C'est ce que je dis, c'est un aristocrate de la couture, tailleur sur mesure pour hommes et pour dames. Et moi, en général, je m'installe dans la boutique. Il a une machine à coudre. Alors, ce n'est pas les machines à coudre Singer telles qu'on les connaît, très stylisées, très jolies. Mais c'est une grosse machine à coudre avec un grand plan en bois de travail. Donc, moi, ma place, en fait, c'est de m'asseoir sur ce plan. Ma mère est à ma gauche. Elle coud les boutonnières.
Elle fait les finitions.
Oui, elle fait les finitions. Elle a les deux pieds sur un petit tabouret. Moi, je suis entre deux. Mon père est à la machine et ça fait énormément de bruit. Ou alors, il est sur sa grande table où il coupe et où il repasse aussi.
Donc, vous avez toute une vie de quartier. On appelle votre père...
Alors, mon père, qui s'appelle en hébreu Yitzhak, qui donne en yiddish Yitzrok, et mieux encore, le diminutif Itchel, on l'appelle Monsieur Jacques.
Qui est le prénom de votre frère.
Qui est le prénom de mon frère. Tout le monde s'appelle Jacques dans ma famille. Mon oncle s'appelle Jacques aussi.
Là, vous avez en fait, votre famille a une double vie.
Oui.
Il y a la vie du quartier, avec le crémier,
l'épicier.
Et puis, il y a l'autre vie, celle que vous appelez celle de Krasnik-sur-Seine.
Oui. Mon père est quelqu'un, il parle très très mal le français, mais il est très bavard. Et en fait, il a un côté parisien et badaud. Donc, il s'installe, surtout au printemps, quand il fait beau. Il y a très peu de voitures dans les rues à cette époque, évidemment. Les enfants jouent, on joue à la marelle sur les trottoirs. Il se met à la porte de la boutique pour prendre l'air, et il parle absolument à tout le monde, à tous ceux qui passent et qu'ils connaissent. On se connaît tous, tous les habitants de l'immeuble, on les connaît. Ils s'arrêtent en général, d'ailleurs, dans la boutique. Ils s'assoient un moment et ils bavardent avec mon père et avec ma mère. Donc, il y a cette vie de quartier. Le dimanche, on porte le poulet à cuire chez le boulanger. Les dames sortent en robe de chambre.
Et en bigoudi.
Mais c'est absolument extraordinaire quand on se souvient de ces moments-là. C'est tranquille comme dans une ville de province. Tout le monde, absolument tout le monde se connaît. Et évidemment, les commerçants se connaissent encore mieux que les habitants de l'immeuble. Je connais Madame Guillotin, qui est à la gauche de la boutique de mon père, qui vend des vêtements pour enfants dans une boutique bleue, la boulangère, enfin, de tous ces gens-là.
Et pourtant, malgré cette vie de quartier, qui semble avoir été une vie heureuse, il y a une autre vie qui n'a plus rien à voir avec le quartier, et qui est Krasnik.
Voilà, et il y a une autre vie qui est Krasnik, il y a une autre vie qui est surtout la langue qu'on parlait à Krasnik, qui était bien sûr le polonais, mais pour les juifs de Krasnik, le yiddish.
Il y avait beaucoup de juifs à Krasnik.
Il y en avait pas mal. Je ne peux pas donner le chiffre exact, mais oui, il y avait tout un quartier juif, il y avait une synagogue, dont j'ai pu voir en y allant, il n'y a pas si longtemps, une réhabilitation. Je me suis promenée dans le quartier juif. Oui, il y avait une communauté importante. Ils vivaient évidemment entre eux. Il n'y avait pas énormément d'échanges entre les Juifs qui y vivaient et les Polonais alentour.
Et ils apportent à la semelle de leurs souliers la langue, le yiddish. Ouais. Et ils ont une sociabilité qui est uniquement une sociabilité avec ceux de Krasnik.
Absolument. C'est-à-dire, quand ils arrivent, comme d'autres arrivent de Pologne en 1936, ils retrouvent les anciens habitants de Krasnik. Ils ont créé des sociétés de secours mutuels. Donc, ils s'adressent à eux pour les prêts d'argent, pour les annonces de travail, etc. Il y a une véritable entraide entre eux. Et ils ont des amitiés, évidemment, anciennes, des amitiés de jeunesse, de tous ces gens qu'ils ont connus à Krasnik. Mais ce qu'ils apportent à la semelle de leurs souliers, c'est effectivement surtout la langue. Ils ne sont pas religieux, ils ne fréquentent pas la synagogue, sauf à Yom Kippour, la grande fête, et encore, ils la fréquentent devant la porte de la synagogue, dans la rue, où ils retrouvent là aussi des amis. Ils ne vont pas vraiment prier. Et donc, c'est la langue et le souvenir qui sont le ciment de ces gens-là.
Dans vos textes, vous évoquez surtout deux choses. Vous évoquez les dimanches, alors pas le dimanche du poulet, parce qu'on change aussi d'alimentation, si je puis m'exprimer ainsi. On passe du poulet au hareng. Donc, vous évoquez les dimanches et vous évoquez l'événement primordial de ces sociétés qui est le bal
oui.
annuel.
Oui.
Alors peut-être d'abord les dimanches.
Oui, les dimanches, mon oncle et ma tante, ceux du 11e. Mon oncle avait été patron d'une entreprise de meubles, il était ébéniste, donc il gagnait assez bien sa vie, et ils avaient décidé d'habiter donc ce qu'on considérait comme une campagne lointaine, mais qui était Brie-sur-Marne, c'est-à-dire pas si lointain que ça. Alors en général, mes parents se retrouvaient avec donc mon oncle et ma tante, mais aussi avec énormément d'autres personnes, se retrouvaient chez mon oncle et ma tante. Mais il y avait aussi beaucoup d'invitations entre les gens de Krasnik. Alors c'était parfois chez nous, rue Truffaut, mais c'était aussi chez eux. Et là, ce sont effectivement les retrouvailles dans la langue yiddish, dans la plaisanterie, et souvent la grosse plaisanterie, dans les discussions politiques, tout ça en yiddish, et les retrouvailles culinaires, bien sûr. Parce qu'à 4 heures, alors à midi quand même, on mangeait le poulet. Mais ça c'était en famille, en famille. Le 4 heures, c'était le Leiker, c'était le gâteau au fromage, ou le strudel, c'est-à-dire le gâteau aux pommes. Et puis, tout ça continuait tout au long de la journée, et on passait du sucré au salé. Donc, toutes les autres spécialités culinaires, et chacune des femmes avait préparé quelque chose.
Et le bal ?
Le bal, c'était la consécration, le bal. Le bal, c'était... Enfin, il y avait deux consécrations. Il y avait le banquet. Donc, le banquet, on est assis autour d'une table. En général, c'était au salon Piccadilly. Ou alors, rue Notre-Dame de Nazareth, quand l'assemblée était moins nombreuse, dans un restaurant yiddish. Donc, le banquet, on mange, on parle beaucoup, on discute, on s'engueule aussi, beaucoup. Et puis, le bal, c'est... Alors là, pour moi, c'est fascinant. Donc, moi, je suis une toute petite fille. Je suis mes parents... On m'achète une robe, ce qui est quand même un événement.
On l'achète, c'est pas votre père qui l'a fait.
Non, mon père n'est pas spécialisé dans le flou. Mon père est spécialisé dans le tailleur, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus strict, le manteau, le pantalon, la jupe droite.
Donc il vous habillera pour votre entrée à l'université.
Eh oui, il m'habillera, voilà. Mais il m'habillera longtemps et souvent. Mais quand je suis enfant, je n'aime pas trop. Et quand je vais au lycée, par exemple, je n'aime pas trop qu'il m'habille. Mais là, c'est une autre histoire. Quand je suis petite, donc on m'achète ou on me fait faire chez la couturière de la rue Bio, qui travaille, elle, évidemment, par définition, dans le flou. J'adore cette expression. Et j'ai droit à une robe en velours, rouge. En général, il faut que ce soit rouge. Je ne sais pas, c'est plus chic en rouge, c'est plus somptueux. Et une robe qui tourne.
Hein, et donc, vous tournez.
Je tourne et surtout, je suis fascinée par l'orchestre. Où il y a une chanteuse en général.
Une chanteuse. Qui chante en yiddish, bien évidemment.
Ah, mais qui chante en yiddish, qui chante en tout, qui chante en français, qui chante en russe, qui chante en espagnol, enfin qui chante dans toutes les langues, mais surtout en yiddish. Et alors c'est un orchestre un peu, enfin je dirais maintenant un peu ringard, enfin ça ne swing pas beaucoup, mais nous sommes dans l'ère du tango, enfin et du tango peu argentin, d'ailleurs c'est du tango franco-russo-yiddish. Voilà, et c'est un bal qui commence donc à. à 4 heures et qui se termine, je ne sais pas, assez tard le soir. Et c'est un moment d'émerveillement pour une petite fille. Et en général, c'est Place de la République. Voilà, mais il y a aussi les visites au cimetière avant Kippour. Il n'y a pas que les moments heureux.
Parce que les gens de Krasnik se font aussi enterrer ensemble dans ce qu'on appelle un caveau.
Voilà, et ce caveau se trouve à Pantin. Et donc, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour,
ce qu'on appelle les jours redoutables.
Les jours redoutables, on se rend au cimetière où on lit les noms des disparus. Et la liste est importante.
Alors, le quartier Krasnik-sur-Seine, puis il y a aussi l'école.
Alors l'école, ah oui, il y a l'école. Il y a d'abord une maternelle rue Brochamp, où je décrète, paraît-il, hein, ça aussi c'est la légende, qu'elle est moche et que je n'ai pas du tout envie d'y aller. Donc je passe peu de temps en fait à l'école maternelle et je me retrouve donc au cours préparatoire en 11e dans une école communale qui se trouve de l'autre côté de l'avenue de Clichy, donc tout un voyage où en général mon père m'accompagne et cette école se trouve rue d'Autancourt et c'est là où je fais donc mes classes d'école communale.
Et ensuite le lycée, vous le faites à...
Le lycée, je me retrouve en 6e au lycée Jules Ferry, le très beau lycée Jules Ferry, Place Clichy.
Et là, vous quittez votre... On a parlé de votre prénom, Eliane Françoise, mais on n'a pas parlé de votre nom de famille, ah, oui. De naissance.
Alors, j'ai un très beau nom, enfin, ce que moi j'estime être un très beau nom, qui est Gutwillig. Mes parents ne disaient pas Gutwillig, bien entendu, ils disaient Gutwillig, c'est-à-dire...
Ils ne disaient pas Gutwillig, ils auraient pu
non,
aussi...
Non, ils disaient Gutwillig, c'est très étrange, parce qu'effectivement, ils ne prononçaient pas le yiddish de cette façon. Ils disaient Git et non pas Gut. Mais le nom était, comment dire, était anobli, je pense, par cet accent nouveau du U qui devenait U. Gutwillig, bonne volonté. Et je trouve que c'est effectivement un très beau nom. Je n'en ai pas conscience à l'époque, c'est mon nom, voilà. Mais c'est maintenant, enfin depuis quelques années, que je trouve que c'est un beau nom. Et je trouve qu'il est d'autant plus beau que mon père décide, donc au moment où...
De le changer pour un nom quasi normand.
Pour un nom normand, pour un nom...
Qui n'existe pas d'ailleurs, qui est... non, vous êtes les seuls à vous appeler comme ça.
Oui, bon, ça c'est déjà
c'est quoi
pas
ce
mal.
Nom des...
Alors, Gutwillig, G-U-T-W-I-L-I-G, devient... Gutwillig. Mon père décide donc de changer de nom, de le franciser, car nous sommes français. Ils sont naturalisés français. Et un de leurs clients, Monsieur Verdier qui pendant la guerre travaillait à la préfecture et donc avait peut-être des occupations douteuses,
côté du fichier, des juifs,
douteuses et d'autres pas. Parce que en fait, mon père, pendant la guerre, a rencontré beaucoup de ces gens qui l'ont aidé, qui avaient une double vie, à la fois un peu collabo et pas du tout collabo, et dans les juifs, parfois, qu'il rencontrait. Monsieur Verdier a aidé mon père pour une bicyclette, pour un papier, pour je ne sais quoi d'autre. Tout ça est très flou aussi, comme la couturière.
Elle a considéré après la guerre qu'il devait continuer à l'aider, oui, en lui donnant quelques bons conseils.
Oui, il lui a donné, et mon père peut-être était influençable. Enfin, il ne nous a pas posé la question, ni à mon frère qui est plus âgé que moi, et encore moins à moi, sur ce désir de changer de nom.
Et vous avez... Quel âge quand vous devenez
eh bien, je suis en
Eliane Françoise Gutwillig.
Eh bien, je suis toujours Eliane Françoise, avec l'accent Iliane. L'accent de mes parents, ça
et
n'est
Françoise,
pas
Eliane. On le dit pas.
Non, Françoise, on ne le dit pas, ça n'existe que sur les papiers. Donc en sixième, ou un peu avant la sixième, c'est-à-dire entre le cours moyen deuxième année, je deviens Gutwillig, et là, c'est assez incompréhensible pour moi, et surtout, il faut... Ça doit être inscrit sur les papiers d'inscription au lycée. Je m'appelle à la fois Gutwillig, anciennement Gutwillig, et nouvellement Gutwillig. Donc c'est compliqué et je suis une enfant timide.
Alors, vous m'avez dit que vous aviez une famille musicale.
Oui.
Et qu'il y avait un gros poste de TSF. D'ailleurs, il y en a un dans votre appartement.
Bien sûr.
Dans l'atelier et un autre
dans la cuisine.
Oui. Que vous avez toujours aimé écouter les chansons, les chanteurs et les chanteuses.
Oui, je suis d'une famille musicale, mais bon, mon frère joue du piano, il joue toujours du piano. Il s'est créé un monde de piano et de musique classique qui m'est un peu étranger. Moi, je préfère effectivement la chansonnette, enfin quelque chose de plus léger. Je dis que ma famille est musicale, mais je le dis un peu ironiquement. Non pas par rapport à mon frère, qui lui est un très très grand mélomane et qui joue très bien du piano, mais ma mère chantonne, ma mère aime Tino Rossi, enfin les choses un peu bêtasses, et les chanteurs de charme. Mon père chantonne des chansons yiddish, on raconte que ma grand-mère chantait, enfin bon. Bien sûr, j'aime ce monde. J'aime ce monde à la fois français, dans l'écoute de la radio, dans l'écoute des émissions, dans l'écoute des chansons, d'André Clavaux, à Edith Piaf, etc. Mais quand je me retrouve à l'école devant cet autre monde, je me dis que le mien est quand même très étrange, parce que le dimanche dont on parlait, c'est un dimanche joyeux, un dimanche plein de blagues, plein de choses comme ça, plein d'éclats de rire, mais c'est aussi ce sont des dimanches où les femmes pleurent beaucoup. Et même les hommes, un homme comme mon père, qui est un être sensible et ne sait pas parfois exprimer ses sentiments, les exprime aussi par les larmes. Car tout le monde est mort en Pologne. Donc tout ça nous envahit, nous environne, nous nourrit, et je suis nourrie de ça. Et je n'ai peut-être pas la désinvolture de mes petites copines qui vont en vacances
chez leurs grands-parents,
chez tata, chez tonton, dans les mariages, ce que j'imagine, les mariages où elles vont, on rigole beaucoup, on fait des grosses blagues. Et chez nous, dans les mariages ou les circoncisions, il y a toujours un moment où tout le monde éclate en sanglots. Donc on transporte tout ça sur notre petit dos, et tout ça est très lourd, très très lourd.
Et pourtant, c'est dans cette période de votre enfance que vous enregistrez votre premier disque.
Mais oui, parce que mon père, ce badaud parisien, il m'emmène promener. Et les promenades, et c'est ça qui est drôle, les promenades partent de la rue Truffaut, passent par la place Clichy, la fameuse place Clichy qui est pour moi le rêve. On passe devant le Vépler, et nous allons... Moi, je le tiens par la main. Nous allons de la place Clichy jusqu'à Pigalle. Et là, pendant tout le chemin, on croise des choses très étranges. Sur le, au milieu des chaussées, il y a une fête qui est installée, des stands, etc. Et on arrive à Pigalle. Et là, il y a... Alors, c'est étrange hein, d'aller jusqu'à Pigalle pour une petite fille de 7, 8, 9 ans. Enfin, je ne sais pas quel âge j'ai, mais c'est à peu près ça. Et là, il y a effectivement un endroit, une sorte de baraque avec des néons, tout ça, qui lance des lumières de fête. Et on peut enregistrer sa voix. Alors, on peut dire n'importe quoi. Bonjour maman, bonjour papa, etc.
Et qu'est-ce que vous avez enregistré ?
Mais moi, j'enregistre une chanson.
Laquelle ?
J'enregistre « Que sera ?» Serra, qui est un grand succès de l'époque, à la fois américain.
Et qui dit
que sera demain, je ne sais pas. Enfin, c'est une chanson sur... Voilà.
Bon, on verra demain.
On verra demain, d'accord.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Annette Wieworka avec Talila.
Ich sing far dir mein shira shirim mit libei ich bat sirim far dir nor ne shume mai.
À voix nue, attaché d'émission Claire.Signon, prise de son Élodie Royer, réalisation Anne-Laure Chanel, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.
Von Banken oder geliebte mein und wenn ich halt in ein Denken als du wirst noch einmal meine sein ich sing von Herzen meine Lieder mein Shira Shirim wieder geliebte fahre dir ich sing das vom Bänken an dir geliebte mein. Und wenn ich halt in ein Denken, als du wirst noch amor meine sein, ich sing von Herz meine Lieder, mein Shira Shirim wieder, geliebte Fahrer.